Good evening. This is Orson Welles speaking.
La naissance de la station de radio la plus puissante du monde.
Medellín, c'est la liberté.
La liberté, c'est aussi carbone.
Merci d'écouter RFI, il est 14h en temps universel, il est 16h à Paris.
Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre au matin de France Culture.
L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour.
Il était donc 11h en ce dimanche 13 juin et moi-même, Clémentine Perrineau, aux côtés de Roméo Frati, étions installés en régie, en surplomb du studio Charles Trenet de la Maison de la Radio, pour voir et écouter l'esprit public, émission animée par un amoureux de la musique, Philippe Meyer, entouré de son cénacle habituel, Sylvie Kaufmann, Jean-Marie Boulange, Michael Abigail et Max Gallo. L'Esprit public, c'est l'émission phare du dimanche sur France Culture, et Philippe Meyer définit lui-même son format comme une conversation, continuée depuis 1998. La messe venait de retentir dans le studio, c'est le programme qui précède, puis vient le jingle de l'émission et enfin la voix de Philippe Meyer, pour ouvrir une heure tapante d'échange sur l'élection de François Hollande le dimanche dernier et ses attendus, actualité des plus brûlantes. Les interventions des chroniqueurs se prolongent, mais restent toutes sous l'orchestration de Philippe Meyer, qui se contente d'un geste haut de la main et prononce le nom de chacun d'entre eux pour que la parole passe. L'intervention de l'animateur se limite quant à elle à deux chroniques, en début et en milieu d'émission, comme une ponctuation. Pas d'acronotable aujourd'hui, Jean-Marie Boulange a été plus avide de parole que d'habitude, obligeant Philippe Meyer à une gestuelle plus appuyée. Et c'est déjà le jingle de fin. Roméo et moi avons ensuite retrouvé Philippe Meyer dans une brasserie en face de la maison de la radio pour évoquer avec lui l'émission du jour et la genèse de l'esprit public.
Bonjour.
J'avais la sensation d'une machine.
Où en étions-nous déjà? Monsieur Meyer était en train de nous
ah
dire...
Ah oui, ça m'amuse que vous ayez eu la sensation d'une machine en écoutant cette émission.
Oui, voilà, réellement, parce que c'était... les interventions étaient extrêmement cadrées, même s'il y a eu des débordements dans les temps.
Il n'y a pas eu de débordement dans les temps, parce qu'il n'y a pas de temps.
Justement, vous arriviez à reprendre...
C'est un point d'honneur chez moi que l'émission ne termine jamais en retard.
Ouais.
Et celle-là, jamais terminée en retard. C'est idiot, mais il faut bien avoir, il faut bien se constituer un surmoi. Et je suis rentré à la radio à une époque où c'était une faute professionnelle de ne pas terminer son émission à l'heure. Aujourd'hui, la rigueur est moins grande sur ce plan-là, mais je l'ai conservé, sans doute parce que ça m'aide aussi à fabriquer mon affaire et puis à tenir un rythme et un certain état d'esprit. Mais c'est vrai que pour moi, c'est amusant et étonnant que vous ayez l'impression d'une machine huilée ou d'un orchestre de chambre, mais d'un orchestre qui tenait, parce que c'est pas du tout, comme on dit aujourd'hui de ce mot assez malsonnant et inesthétique, c'est pas mon vécu. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Mon vécu, c'est que j'avais la conviction, connaissant mes idiomas, que chacun avait quelque chose d'intéressant à dire et d'original et qu'il fallait, de personnel en tout cas, et qu'il fallait trouver le moyen que ces choses-là se répondent, ou en tout cas se stimulent.
Et cette réponse-là n'est pas anticipée. Elle est...
Il n'y a rien. La seule chose qui soit anticipée, c'est qui va démarrer.
D'accord.
Chaque sujet. Et donc, on décide au début de chaque émission, très rapidement, je dis, bon, qui ouvre ? De manière que celui à qui je passe la parole n'est pas une espèce d'hésitation ou de chose. Pendant que je fais la synthèse, que je lis la synthèse, celle ou celui qui va démarrer le sujet a le temps de décider de sa première phrase, si je puis dire, ou de décider de son truc. Donc il remonte son ressort. Mais il n'y a rien, absolument rien, rien, rien. Le balai n'est absolument pas réglé. C'est d'ailleurs en ça que c'est drôle et quelquefois casse-gueule, mais le balai n'est absolument pas réglé. La seule chose réglée, c'est qu'on commence à 11h et qu'on finit à 59. Punto. Donc voilà, et sur mon papier, j'ai juste écrit l'heure à laquelle je pense que je vais passer à la séquence des brèves. Peut varier un peu parce que je peux renoncer à la mienne, ce que j'ai fait d'ailleurs là pratiquement. J'ai juste signalé un truc, je voulais en dire davantage. Donc ma seule élasticité porte sur le renoncement ou non à ma propre brève.
Parce que là, effectivement, on avait une question à poser là-dessus.
Oui, par rapport aux intervenants, tu veux dire les intervenants?
Oui, à la fois les intervenants et votre propre rôle au sein de l'émission.
Ce sont deux choses peut-être qui vont ensemble.
Ouais.
Il y a une chose dont je n'avais absolument pas mesuré la fécondité, si je puis dire, ou l'utilité en tout cas, quand j'ai créé l'émission, qui était de la fermer. Il se trouve que j'ai vécu dans des milieux de musiciens, notamment de chefs d'orchestre. Comme je n'ai jamais réussi à apprendre moi-même le solfège convenablement, je me console en me disant que c'est ça qui m'a donné l'idée de fermer mon clapet pendant les émissions, ou de très 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 peu intervenir, et de me consacrer exclusivement au rythme de l'émission, à faire ce qu'on appelait autrefois le Kapellmeister, celui qui vraiment donne le rythme. C'est même pas le chef d'orchestre qui indique une interprétation, c'est celui qui donne le rythme, c'est lui avec sa canne. Je l'ai fait sans, ça m'a pas gêné. Je veux dire, je me suis pas demandé est-ce que je vais pas passer pour un zombie, est-ce que je vais pas être inexistant, est-ce que j'ai eu la conviction, la certitude, je dirais même, que c'est ça qu'il fallait faire. Et je me suis aperçu que c'était, si vous voulez, parmi les convictions que j'avais, il y avait celle que j'avais envie d'entendre comme auditeur, et il est rare que cette envie, on l'ait tout seul, j'avais envie d'entendre une conversation et non pas un débat, que la radio et la télévision étaient et sont encore plus aujourd'hui bourrés de débats qui sont des combats de coqs, pendant lequel, au fond, c'est toujours l'animateur qui tire son épingle du jeu, parce qu'il a invité beaucoup trop de gens pour qu'on s'en souvienne. C'est toujours lui qui est en fait la vedette et le bénéficiaire. J'ai horreur de ça et j'en voulais plus. Donc il y avait l'idée de la conversation, et il y avait l'idée du club, qui était un peu trop...
On avait cette question aussi, la sensation que c'était un cercle d'intellectuels d'amis quand même. Voilà.
C'était... alors, il faut que je vous raconte l'histoire de l'émission.
De la rencontre.
À l'origine de l'émission, mon modèle, si je puis dire, c'était la Tribune des critiques de disques dans laquelle j'avais grandi, de France Musique, qui était composée d'un petit ensemble, c'était 7 ou 8 personnes, il n'y en avait que 4 en général, qui étaient convoqués pour une émission. De toute façon, les gens ont des occupations professionnelles diverses et variées, mais j'ai grandi là-dedans. J'ai écouté la Tribune des critiques de disques depuis très très jeune, avec énormément d'intérêt. J'ai conservé un goût très marqué pour les interprétations. Et donc, je voulais cette formule-là, c'est-à-dire des gens qui ont un rendez-vous hebdomadaire. Et donc, la première formation, où il y avait Max Gallo, Jean-Claude Casanova, Jacques Julliard et Alain-Gérard Sama, c'était les mêmes que j'invitais toutes les semaines. Je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait de la surprise, parce que sinon ils se figent dans des rôles et ils les interprètent et ils les surinterprètent. Donc j'ai transformé la chose, j'ai fait une espèce de trimestre à blanc avec des gens qui n'avaient rien à voir avec eux, et puis j'ai recommencé, donc j'ai composé, donc 99 je pense.
D'accord, donc juste après
la deuxième année. Et puis ensuite j'ai fait en sorte qu'il y ait donc un mélange de figures permanentes. Ça a d'abord été Max Gallo et Jean-Claude Casanova, puis au moment où Jean-Claude Casanova est allé passé du Figaro au Monde et donc a rejoint Jean-Marie Colombani dans son émission du samedi, ça a été Jean-Louis Bourlange, qui jouait déjà remplaçant, si je puis dire. Max donc depuis le début, et Jean-Louis, je dirais, je ne sais plus, 2002, 2003, il faudrait regarder, j'ai pas fait l'archéologie de l'émission. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait qu'il y ait à la fois du permanent et occasionnel. Alors l'occasionnel, il y a eu tout un tas de gens, certains ça n'a jamais marché, parce que c'est difficile de s'intégrer à un groupe.
Mais de longue durée quand même, enfin, quelqu'un qui serait
non,
là,
pas forcément, il peut y avoir de l'occasionnel de circonstances, ouais. De toute façon il faut essayer des gens, donc il y a forcément certains d'entre eux ont été, j'ai essayé Madame Kosciusko-Morizet, j'ai essayé une socialiste qui s'appelle Lynn, si je me souviens bien, Schmidt. Voilà, ça n'a pas marché du tout. J'ai essayé des gens qui sont venus une fois.
Ça
n'a pas marché. Dans certains cas, c'est parce que, dans le cas de Madame Kosciusko-Morizet, c'est parce qu'elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas faire la même chose que devant, comme militante. C'était à l'époque où c'était une chiraquienne ardente, et donc elle disait du bien de Jacques Chirac toutes les deux secondes dans le truc, et c'était. Totalement, c'était consternant pour dire les choses comme elles sont. C'était consternant parce qu'on sentait vraiment, cette espèce de servitude volontaire qui fait, ça fait de la peine quand on a affaire à des gens dont on sent bien qu'ils sont intelligents, qu'ils ont du caractère, c'est terrible. Enfin, tu vois, c'est ce que je ressens. Et puis, dans d'autres cas, c'est parce qu'ils ne sont pas du tout radiogéniques, ça ne marche pas ici. Ou alors, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la voix, ça ne marche pas, ils ont une expression, ils se mettent à bafouiller. Et puis, il faut les réessayer, parce que pas se fier à seulement la première fois. Et puis, progressivement, il y a eu, si on prend l'équipe d'aujourd'hui, que vous avez vu, donc Michaela, qui est là depuis maintenant déjà un certain temps. J'ai toujours aimé les voix étrangères, et quand je faisais ma première émission de radio, j'étais le premier à embaucher un Anglais, Alex Taylor, parce qu'il est évident que les accents à la radio, c'est comme les odeurs à la cuisine, ça fait quelque chose de... Alors évidemment, il ne suffit pas qu'elle ait un accent, elle a aussi, elle travaille énormément, c'est une de ces journalistes qui font honneur au métier de journaliste, Sylvie Kaufmann, qui, ages ago, a été mon étudiante, qui a été une très brillante journaliste, vraiment. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai très souvent cité autour de moi et à mes propres étudiants, qui a beaucoup été correspondante à l'étranger, puis qui est maintenant revenue, qui avait le temps, puisqu'elle n'avait plus de responsabilité aussi importante qu'elle ait pu en avoir à un moment donné du temps de Fotorino. Et moi, j'étais content d'avoir quelqu'un du monde. J'avais eu Eric Israelewicz, mais pas quand il était dans Eric. Il a été longtemps un de mes commensaux, et puis j'ai pas pu le garder quand il est passé avec une chronique régulière à Europe 1. On peut pas quand même. Non, c'est pas le cumul, c'est la concurrence. On peut quand même pas.
Je peux,
c'est même pas une question juridique, mais je ne peux pas faire de la pub à la concurrence, il faut choisir. Ça ne peut pas difficilement. Tout le monde n'est pas Alain Duhamel. Et donc, je l'ai regretté beaucoup parce qu'il est très brillant à la radio, très solide, et que c'est un bon camarade quand il marchait, ce qui est quand même une des conditions de cette émission. Si les gens n'ont pas du plaisir à se retrouver, il manque quelque chose. C'est évident, les gens l'entendent qu'on est content de se retrouver. Les petites choses qui se passent, que vous avez vues aujourd'hui, qui se sont passées avant l'émission, les blagues, les trucs, rien, les comment tu vas, les autres poils, et autre chose du même genre. Non, ça ne fait pas partie de la préparation, ça fait partie du code génétique de l'émission. Nous sommes des gens qui sont contents de nous voir et qui d'ailleurs nous voyons en dehors des heures de service et des obligations. Donc, c'est de la même que la voix est quelque chose qui compte, le timbre, que le plaisir de se retrouver, les auditeurs n'ont aucun besoin de le voir, ils le sentent. Donc voilà, mon idée c'était ça, elle a évolué de cette manière-là. Et l'autre idée, c'était, l'émission est née par hasard, c'est-à-dire que l'émission est née parce que le nouveau président de Radio France de l'époque avait décidé de mettre un terme à la carrière à France Culture, de tous ceux qui avaient été choisis, embauchés par Jean-Marie Borsex, qui a été pendant 14 ans un remarquable directeur de France Culture, mais qui était mal vu par le nouveau président, qui l'a d'ailleurs viré, et qui a nommé quelqu'un d'autre, en l'occurrence Patrice Gélinet. Et la consigne reçue par Patrice Gélinet, c'était d'éliminer tous ceux qui avaient été engagés par Borsex, sauf Alain Finkielkraut. Et Gélinet, que je n'avais jamais vu de ma vie, m'a défendu en disant « Non, c'est pas une bonne idée, à l'époque je faisais une émission d'entretien, il y aurait trois quarts d'heure le samedi après-midi, avec en général des gens pas très connus, mais j'avais trouvé pour, par un biais ou par un autre, et qui avait des choses à dire. Et j'aimais beaucoup cette émission qui s'appelait Allegro Serioso. Elle a été donc sacrifiée sur l'autel de la mauvaise humeur du président de Radio France, mais Gélinet a obtenu qu'on me donne quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'heure où il n'y avait pas d'auditeur. Et il m'a très sportivement fait venir et il m'a dit, écoutez, voilà, je vous ai sauvé la peau, faites le gros dos parce que des jours meilleurs reviennent. Vous avez une heure, il n'y a personne, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc j'ai dit, ce que je veux, bon, c'est une idée que je travaille depuis longtemps, c'est de faire le café du commerce des intellectuels. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, ça veut dire un club de la presse sans journaliste. Évidemment, ces deux expressions étaient un peu excessives, mais puis je lui ai expliqué mon histoire, la tribune des critiques du disque, le thème de la semaine, et tout de suite, je lui ai dit, le contraire d'un débat, je veux une conversation. Et Gélinet a été, il aurait pu être sceptique, dire qu'il m'a vraiment encouragé. Il m'a dit, c'est une très bonne idée et j'espère que ça va marcher. Puis il n'est pas resté très longtemps parce qu'il y a eu un changement, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, il a eu le temps de faire vivre cette émission et ensuite, l'émission, alors lentement, très lentement, mais on a tout de suite su ce qui plaisait. Et l'émission a lentement progressé jusqu'à devenir l'émission la plus écoutée de la chaîne, dans ce qui prouve qu'il ne faut avoir aucun fétichisme, ni celui de l'heure de diffusion, ni celui du jour, ni celui de l'heure.
Qu'est-ce que vous dites quand vous qualifiez l'émission de conversation et que l'on pense plutôt que l'on est face à un ton de conférence, en fait? Vous êtes contre cette idée?
Ça ne me parle pas du tout, me paraît pas du tout correspondre à ce que j'écoute, parce que je réécoute l'émission de temps en temps. Mais je peux comprendre que, par exemple, la longueur des interventions que je permets et que j'ai toujours voulu permettre depuis le début, par contraste avec ce qui se passe dans les autres chaînes, puisse donner cette image-là à des gens de votre génération, notamment. Mais pour moi, et d'ailleurs si vous réécoutez l'émission, vous vous apercevrez que c'est une conversation parce qu'ils se répondent, parce qu'ils rebondissent les uns sur les autres et parce qu'ils se répondent. Et je comprends bien que le fait que je permette, comme je l'ai fait aujourd'hui, une intervention de l'un des membres, nous ne dirons pas lequel, qui a été d'un peu plus de 11 minutes, est quelque chose qui, dans les écoles de journalisme, vaudrait probablement un renvoi immédiat. Les écoles de journalisme forment pas une formate.
Oui, d'ailleurs, par rapport à cette idée de format, vous aviez hors de l'idée d'une conversation et d'une fin, d'avoir un format d'une heure, rien à l'intérieur.
On m'a donné une heure, donc j'ai pris l'heure. On m'aurait donné une demi-heure, j'aurais pas pu faire la même émission, à mon avis, peut-être même pas pu la faire du tout. À partir de là, il y a des choses qui ont avancé. Par exemple, au début, je n'avais pas ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire le texte que je lis et qui présente le sujet le plus, de manière la plus neutre possible, la plus factuelle possible. Je ne l'avais pas. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'ai dit, maintenant on va parler de l'élection de François Hollande. Maintenant on va parler des conséquences internationales des hommes. Donc j'ai préparé le truc, et très très vite, la réaction des auditeurs a été, ah oui, surtout, n'abandonnez pas ça, Hubert Bertas, qui est le service politique de France Culture, qui vient de passer. Je dis ça pour vos auditeurs qui ne comprendront pas. Dès que j'ai su que c'est... Alors, c'est même, quelquefois, ça prend des tournures. Les gens disent, vous devriez les publier. Ça m'amuserait de les publier, ne serait-ce qu'on se rend compte que ça n'est pas publiable, précisément, puisque c'est tellement factuel, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est venu, je ne sais plus à quel moment, ça peut se retrouver dans les archives, mais c'est venu. Et puis, il y a... Alors après, justement, c'est ce qui, je crois, tient en partie au fait que les gens entendent le fait qu'on est une... L'esprit de camaraderie nous anime. Quand on a fêté la 666e émission l'année dernière, à l'Opéra Comique à Paris, où il y a 1300 places, un dimanche de vacances, si je me souviens bien, moi j'avais dit, écoutez, il n'y a qu'à ouvrir le bas de l'Opéra Comique, ça suffira, c'est pas la peine. Et puis quelqu'un dit, non, on va tout ouvrir, on ne sait jamais. On a dû refuser 200 personnes, pour rien. Vous avez vu l'émission ce matin, les gens viennent, ça ne leur apporte rien, ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est le contraire de la radio interactive qui est une posture de première boule. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire bonjour à leur grand-mère, ils ne peuvent pas saluer les copains du lycée, etc. Mais de toute façon, on ne leur offre rien. Ouais. Ils ont besoin de gentillesse d'applaudir, mais on ne leur offre rien. On s'est aperçu qu'ils aimaient venir, donc on le fait. Parce que c'est bon pour nous aussi, parce qu'on est plus cabots quand ils sont là. Parce que, en général, j'ai plus de facilité à tenir leur rythme. Parce que si je leur fais honte devant tout le monde, que si, bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin, ça fait rien. On a réussi quand même. Mais. Donc il y a un attachement affectif à cette émission qui reste encore quelque chose d'à la fois délicieux et mystérieux.
C'est une redécouverte aussi, parce que par exemple, des générations comme nous, moi je ne connaissais pas l'esprit public quand j'étais petite.
Si c'est quand vous aviez 4 ans, ça ne m'étonne pas. Mais non, alors ça, on a autre chose qui n'est pas tout à fait, qui contredit un peu ce que vous venez de dire, parce qu'on s'est aperçu qu'on a proportionnellement, je ne parle pas en chiffres absolus, puisque cette émission fait entre 5 et 600 000 auditeurs, et que celle d'Inter fait entre 1,5 million et 1,6 million. Mais proportionnellement, il y a beaucoup plus de gens de moins de 30 ans qui écoutent l'esprit public que de gens qui écoutent La Prochaine Fois Je Vous Chante.
Oui.
D'ailleurs, France Inter est beaucoup plus une radio, j'allais dire de vieux, c'est très exagéré, puisqu'ils sont plus jeunes que moi, mais que France Culture.
Ouais.
Il y a beaucoup plus de gens, et c'est pas seulement parce qu'il y a des étudiants, c'est aussi des étudiants, mais il y a pas seulement ça. Et surtout, ce qui est la nouveauté, c'est que, par exemple, j'ai vu des gens de milieu pas du tout instruits, enfin qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui écoutent l'esprit public et qui ont moins de 30 ans, parce que quelqu'un, parce qu'ils ont un copain ou une copine qui... quand on leur dit « Écoute France Culture », quand on leur dit « Écoute France Culture », ça ne les rebute pas. Ils disent bah, « Oui, pourquoi pas ?» Ce qui n'aurait pas été le cas il y a 15 ans. France Culture, il y avait un ghetto, gens qui écoutaient France Culture. Pas à cause de France Culture, mais à cause de ce qu'il y avait dans les têtes, qui était, voilà, et ça... Il y a justement le côté, on fait son marché, et donc on va, si on sait que les meilleures aubergines sont à Auteuil et les meilleures fraises sont à Belleville, et ben si on peut faire le déplacement, on le fait. Donc ça fait qu'on a, on n'a pas de problème de renouvellement de public, parce qu'on a toujours eu un public, très vite en tout cas, eu un public qui avait tous les âges de la gare.
Et ça, c'est peut-être aussi lié au contenu, finalement, le fait que l'on soit si proche de l'actualité, c'est une volonté ?
Non, parce que si c'était si... L'émission était faite pour commenter l'actualité, sauf les émissions thématiques. Mais précisément, c'est au contraire, ça ne peut pas être ça, puisque là, sur ce plan-là, on est submergé par le nombre d'émissions qui sont très proches de l'actualité. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut être que le format du style radiophonique et la façon de traiter les choses. Mais ça ne peut pas être lié au fait que les sujets sont chauds, parce que là, pour le coup, on n'est pas concurrentiel.
Et ce choix du justement,
bon, c'est très simple, on fait tous les lundis avec mon assistant, en l'occurrence une assistante. J'ai tous les deux ans, je change de collaborateur. Parce que je pense que c'est pas un métier et qu'il faut qu'on passe là avec l'idée en sachant qu'ils cherchent autre chose. Et jusqu'à présent, ça leur a encore réussi à très rares exceptions près. Donc le lundi, on fait un panorama. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'incontournable? Qu'est-ce qu'il y a de possible? Quelquefois on sèche. On envoie, on a trouvé 2, 3, 4, 5 sujets. On essaye qu'il y ait presque toujours un sujet de politique intérieure. Et puis on le balance à ceux qui viendront faire l'émission, qui changent donc, en général la semaine. Ils réagissent plus ou moins rapidement. Je regarde leur réaction et puis je tranche. Donc je décide que le mardi matin qu'on fera 2 sujets. À partir de là, Mathilde, cette année, fabrique avec le stagiaire une fiche documentaire qui est un des éléments importants de l'émission, parce que les participants s'appuient beaucoup dessus. Ça mâche un peu le travail, tout en leur demandant quand même encore un travail personnel. En général, ce qui frappe les gens qui viennent voir l'émission, c'est que les participants, il n'y a pas très longtemps, on fait souvent des trucs avec des lycéens, et les lycéens étaient, seconde, première, terminale, étaient très très impressionnés par les fiches avec lesquelles Max Gallo, Académie française, Jean-Louis Bourlange, professeur à Sciences Po, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale du Monde, viennent avec lui et des notes, enfin des espèces de plans d'intervention. Là, ils se sont dit merde. Alors, parce qu'évidemment, ils voient une radio, ils entendent une radio, ils voient une télévision où les gens viennent, je suis oiseau, voyez mes ailes, et voilà, et alors, et je pense que, et je. Et donc, ben voilà, donc c'est. Puis après, ben. Toujours le même système, l'assistante et le stagiaire fabriquent des éléments pour la synthèse que je vais lire, que je reprends. Et, donc, et après, il n'y a plus qu'à.
J'avais une question toute simple, à vrai dire. Une question toute simple que qui peut paraître un peu
c'est là pas, on dit, j'ai une question idiote.
Voilà, exactement. Un peu. Non, mais tout simplement, vous
en avez déjà parlé.
Oui, vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais quand même qu'on y revienne un peu dessus, parce qu'on a là une émission quand même qui est très dense, qui est très complexe, qui explore des questions à la fois sociales et politiques très pointues. Et vous avez quand même. Et vous lui avez quand même donné une place le dimanche matin. Le dimanche matin, qui est un horaire quand même où beaucoup de jeunes, je le dis très franchement, c'est beaucoup de jeunes font la grasse matinée.
Bon, je ne lui ai rien donné. On m'a donné le dimanche matin et j'en ai fait, nous en avons fait, fait passer cette heure d'une heure où il y avait le désert à, encore une fois, l'émission la plus écoutée de France Culture. En plus, que les jeunes fassent la grasse matinée, bien entendu, ça me scandalise de mon temps, cette chose-là n'existait absolument pas, et d'ailleurs la grasse matinée n'était pas inventée. Mais ils n'ont qu'à faire comme tout le monde, c'est-à-dire la podcaster. C'est aussi une émission qui est dans les plus podcastées, les plus téléchargées, de la chaîne. Donc voilà, c'est comme ça, le mode de consommation de la radio et même de la télévision progressivement, avec la télévision de rattrapage, le mode de consommation de la radio a changé. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez marrant, en fait, de voir qu'avec les téléchargements, les auditeurs font leur programme. Et que s'ils aiment, je ne sais pas quoi, une émission, l'émission économique d'Europe 1, enfin d'Europe, s'ils aiment les grosses têtes et s'ils aiment les poèmes que lisent... diffuse, lu par les gens de la Comédie Française et diffusé à 6h du matin à France Culture, et bien ils peuvent très bien faire la grasse matinée, ils peuvent même être dans leur bain. D'ailleurs, les gens ne se rendent pas compte, mais ils arrivent. L'autre jour, une charmante jeune femme est arrivée et m'a dit: « Ah, monsieur, je vous écoute dans mon bain. » Mais c'est très bien. Moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup écouté la radio dans mon propre bain. Maintenant, je ne l'écoute plus parce que... Et bon, j'écoute la musique, mais c'est un... Mais voilà, je pense que c'est... Il y aura de moins en moins, étant donné l'éclatement des modes de vie, des horaires de travail, etc., il y aura de moins en moins... Si vous voulez, on passe d'une situation de type catholique à une situation de type protestant. La situation de type catholique, c'est tout le monde va à la messe le même jour. La grand-messe, c'est ce qu'on appelait quand j'étais enfant la messe à trois chevaux. Il y a le prêtre, le diacre et le sous-diacre. Et puis après, on se retrouve tous sur la place du village ou de la ville, et puis on fait société. Et les protestants, c'est pas ça. Les protestants, c'est on est direct avec le bon Dieu et on veut pas d'intermédiaire. Donc les gens font leur programme culturel direct avec le téléchargement, et donc on voit bien que ça rassemble encore beaucoup de monde. Et puis il y a aussi les gens qui écoutent en voiture. La voiture reste quand même la providence et la pourvoyeuse d'auditeurs pour le radio. Je vois bien, moi, mon émission de France Inter, elle est diffusée, elle est rediffusée l'été. Chaque été, on récupère des auditeurs comme ça, parce que c'est des gens pour qui l'heure de midi à 1h du samedi, trois cafés, l'heure de midi à 1h le samedi ne convient pas pendant l'année, donc ils ne l'écoutent pas par hasard, et là, paf, ils ont des horaires décalés par leurs occupations ou leurs inoccupations de vacances, et paf, ah merde, c'est quand ça ce truc? Bon, et du coup, après, on les retrouve pendant l'année, ou sur le podcast aussi. Je crois que la question de l'heure, qui en était, au fond, moi, J'étais très heureux que Gélinet me sauve la peau en me trouvant cette heure, et j'étais très heureux de faire, pouvoir réaliser une idée que j'avais eue, que je ruminais depuis quelque temps. Moi, je ne me suis pas soucié de savoir s'il y avait des auditeurs ou pas. En plus, en même temps, à cette époque-là, je parlais à 8h moins le quart tous les jours à la France Inter. J'étais pas en manque d'auditoire. Ça a été beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et puis la chance, c'est aussi les gens qui vous la donnent ou qui vous la conservent. C'est pour ça que je les nomme volontiers.
De personnages extravagants qui se baladent dans la rue.
Des extravagants, enfin, c'est un couple à trois, deux garçons et un chien.
Exactement.
Des enfants un peu beaucoup.
Voilà.
Extravagant parce que le chien, elle est heureux, c'est tout.
Malgré tout, c'est un peu aussi.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Meyer. C'était Philippe Meyer sur Transistor avec Clémentine Perrino et Roméo Frattini. À bientôt.